On joue anti-domino, qui te montre aux gens pour les os. Ou qu'à jouer en bas, ou qu'à jouer en haut. Depuis ou team qui sont pipito. M'la gué grain cette belle asna, col. Souvent li blase, même rete sous bol. Li gué le gué de toi, bon zone amel. Li joué pour me remel. Moi m'a fait pour nous font brasser. Moi pas nan bagay, joué t'associé. J'ai un joué pour nous décaler. Passons pas m'nan. Passons par moi, ma chérie, regarde un jouer anti-domino. Qui t'a montré aux gens pour les os. Ou qu'à jouer en bas, ou qu'à jouer en haut. Les buildings qui sont bibito. Un jouer anti-domino. Qui t'a montré aux gens pour les os. Ou qu'à jouer en bas, ou qu'à jouer en haut. Les buildings qui sont bibito.
Écoutez l'épisode 5 du podcast What the F. Je suis Fania Noé, comme vous le savez, et vous savez qu'il faut prendre un siège. Bienvenue.
So what the hell is your name? Some people are born into families where they have to walk miles just to get water. All I have to do is turn on a faucet. That's privilege.
I think privilege is when some people have some things and other people don't have things.
I feel privilege is something that you don't even really have control over.
I think it'd be silly for me to say I don't have a fair amount of privilege, considering like the country I live in and the job I get to do and the college I was allowed to go to.
I suppose being a white male will help me end up somewhere towards the front, but I'll take a few steps back from being gay.
I don't think I'll make it to the front. I think I'll maybe be in the middle. That's just the gut feeling I have.
C'était un extrait d'une vidéo de BuzzFeed qui s'appelle What is Privilege? C'est en anglais, c'est disponible sur YouTube. Et j'ai trouvé intéressant pour introduire ce thème de mettre une vidéo d'un média américain, d'un gros média américain qui fait partie d'un gros groupe qui parle de privilège dans cet épisode qui s'appelle « En finir avec les privilèges ». Peut-être que le nom de l'épisode vous a dupé en se disant bah, « c'est un moyen pour comment check ses privilèges, etc. » Alors, pas du tout. Aujourd'hui, c'est « En finir avec les privilèges » dans le sens « arrêter d'en parler et de faire, d'en faire quelque chose de radical ou de politique ». Et c'est venu du constat où dans certains groupes, milieux militants et espaces qui ne sont pas constitués, mais qui produisent quand même de la pensée avec les interactions, comme les réseaux sociaux ou les groupes, où cette affaire de privilège, de liste de privilèges qui doit les checker, etc., est un vrai problème et qui, pour moi, est un signe du néolibéralisme qui envahit tout, qui consomme tout et qui le transforme en problème individuel. Et ça, c'est vraiment lié à la question de la politique d'identité. Même si le terme « identity politics », « politique d'identité » est largement repris par des groupes réactionnaires, etc., pour dire « ah, il ne faut pas parler de race, de genre » et tout ça, dans un monde, dans une version utilitariste et dévouée à la base politique d'identité a été conceptualisée par The Combahee River Collective. C'est un groupe de black feminists, de féministes noires, dans les années 70. Et elles ont décrit ça, la politique d'identité, comme une emphase qui est mise sur sa propre oppression. Et elles pensent que c'est une croyance qui fait croire que le plus profond et potentiellement la plus radicale des politiques vient directement de nos entités et ça s'oppose à un travail pour en finir avec l'oppression collective en se disant que en fait c'est une confrontation entre les individus. Et la question de privilège, cette notion de privilège, et c'est pas un hasard qu'elle soit si facilement digérable et reprise par des groupes, que ce soit médiatiques ou politiques ou mainstream ou libéraux, comme quelque chose qui se veut une pratique radicale, révolutionnaire. Je ne sais pas, peut-être certains ou certaines d'entre vous ont participé à des des workshops ou des ateliers, ou même on vit des vidéos avec cet exercice sur les privilèges, on pose des questions et les gens avancent, partent, etc. pour les quantifier. Et cette pratique est vraiment individuelle et elle est vraiment quelque chose qui est basé sur le sentiment, après la culpabilité, et c'est fait aussi pour que les gens se rendent compte. Et le problème politique de fond que pose ça, en plus de l'individualisation, que tu prends une personne et après tu crées un concept, un idéal type qui s'appelle le mec blanc cis hétéro bourgeois. Donc ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont comme ça, mais ça c'est un concept dans le langage courant, le mec cis-het blanc, etc. Pour le réduire, donc ça fait écho à ce que je disais dans le numéro sur les alliés. Tout le focus, en fait, il n'est pas sur les personnes du groupe oppressé systémiquement, que ce soit par la race, le genre, la classe, mais il est sur les personnes qui en bénéficient. Parce que quand on dit « check tes privilèges », c'est il faut que la personne reconnaisse sa position pour que nous, on puisse être reconnus en tant que victimes. Et ça fait, j'ai lu un super article que mon ami et militant Joao Gabriel m'a envoyé, qui est sur le site qui s'appelle Historical Materialism, c'est un article en anglais, je mettrai le lien, qui traite, lui, pas de la question des privilèges, mais qui s'appelle Defining My Own Oppression, Neoliberalism and the Demand of Victimhood, donc définir ma propre oppression, le néolibéralisme et la demande de victimisation. Et cet article parle pas forcément du privilège, de cette affaire de privilège, mais analyse extrêmement bien comment la politique néolibérale, comment la prise en compte dans un cadre néolibéral pousse les gens à être dans ce rapport individuel. Donc, qu'est-ce qu'est le néolibéralisme ? Il y a le libéralisme qui est pour une structure économique, mais aussi politique et de pensée qui a vaincu ces dernières années, vu que c'est dedans qu'on a vécu pendant très longtemps, c'est-à-dire le marché libre, payer moins, le capital est rémunéré plus que le travail, l'exploitation sans limite des ressources, etc. Le néolibéralisme, par contre, vient modifier le libéralisme, parce que le libéralisme est très sur la main invisible de l'État, du marché, que le marché se régule lui-même, etc. Mais le néolibéralisme pense que, en fait, le marché n'arrive pas à se réguler lui-même de fait, mais plus important, c'est qu'il faut que les êtres humains, la société, s'adaptent, et soit, donc créer un homme nouveau. Et pour créer cet homme nouveau, on a besoin d'une structure extrêmement forte qui s'appelle l'État. Donc le néolibéralisme, c'est l'intervention de l'État, non pas pour protéger les citoyens et les droits, mais l'intervention de l'État qui aurait des objectifs similaires à ceux des propriétaires des moyens de production. Donc c'est ça qu'on voit avec Macron ou aux États-Unis, c'est-à-dire que l'État est là pour que, soit de force, soit de gré, les êtres humains changent, c'est-à-dire s'adaptent au fait que le travail n'est pas bien rémunéré, qu'il est précarisé, s'adaptent au fait que peut-être tu n'as pas de travail, à l'ubérisation, et les forment à ça, c'est-à-dire que la formation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit primaire, acclimate ces futurs travailleurs, travailleurs précaires ou chômeurs, via un travail qui est fait par les institutions de l'État. Donc c'est ça le néolibéralisme, c'est-à-dire que, en fait, pour que ça marche et pour qu'il y ait le moins de réticence possible à ça, il faut un outil puissant, et l'outil le plus puissant depuis qu'il y a des nations, des États-nations, c'est l'État. C'est l'État qui dispose la violence légitime, c'est-à-dire avec la police et l'armée, comme on voit pour contraindre, par exemple, pour interdire des manifestations ou pour faire la sécurité ou empêcher la migration pour faire en sorte qu'il y ait toujours ce rapport nord-sud. Donc c'est ça le néolibéralisme. Et comment ça s'infiltre même dans les pensées militantes qui se veulent progressistes, c'est se dire de dire ben dans le néolibéralisme qui pense la compétition entre les êtres humains pour avoir accès aux ressources et au bien-être, les demandes de justice sociale sont prises en compte. Parce que pour qu'on continue de produire, le conflit, ça produit pas de moyens. Donc dans cette pensée qui imprègne partout, parce qu'on vit, on vit pas dans des bulles, on vit dedans, il y a cette idée d'individualisation que quand on est dans un groupe, si chaque personne prend la responsabilité de ses privilèges en les nommant, ben en fait ça résout une sorte de problème. Mais la réalité de fait, c'est pas ça. On peut être dans un groupe, voilà, je suis dans un groupe, il y a quelqu'un qui a dit oui, moi je suis privilégiée parce que mes parents sont blancs, je suis un mec, je suis propriétaire, etc. Donc voilà, il l'a reconnu, il est gentil, il l'a reconnu. Mais au final, qu'est-ce que ça change de ma situation? Qu'est-ce que ça change pour l'organisation collective? Qu'est-ce que ça change que cette déclaration? Qu'est-ce qu'elle change à part pour certaines personnes de dire « Ah ben, si toi tu reconnais, c'est-à-dire ce que moi je pense et que j'essaye de politiser, ben c'est vrai. » Mais qu'est-ce qui se passe si personne le reconnaît? Donc, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui enlève vraiment du pouvoir. Et c'est très contradictoire parce que la surprésence de cette question de privilège, etc., elle vient du fait que les gens se sentent impuissants. C'est-à-dire que quand on se sent impuissant, on a besoin de validation extérieure pour dire ce que l'on pense politiquement, ce qu'on essaye de traduire politiquement, c'est la réalité. Et au lieu de construire des espaces politiques pour rentrer dans une lutte pour obtenir cette justice, on cherche la validation des représentants, entre guillemets, un représentant, entre guillemets, du groupe extérieur. Alors que si on y réfléchit bien, ça n'a aucun sens. Parce que les personnes, même si elles sont représentantes du groupe extérieur, qui vont reconnaître leurs privilèges. Déjà, pour reconnaître ces privilèges, il faut en avoir. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui apporte plus à la personne qui reconnaît ses privilèges en tant que gratification symbolique de « Ah, je suis une bonne personne, j'arrive à avoir de la réflexivité ». Donc, ça apporte plus à cette personne. Et une fois que ces personnes le reconnaissent, les personnes qui le reconnaissent, qui appartiennent à ces groupes, c'est les personnes qui sont le moins potentiellement les moins actives dans leur groupe. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans des espaces où elles trouvent d'autres personnes, des groupes dits oppresseurs, pour reconnaître leurs privilèges, sont déjà dans un cadre qui est fait que les personnes qu'elles rencontrent ont déjà fait une partie de chemin. C'est-à-dire que Bernard Arnault ou, Donald Trump ou les 50 fortunes de France, on ne va pas les croiser dans un workshop ou dans un groupe militant où ils vont dire « Oh, je reconnais mes privilèges ». Et même s'ils diraient ça, ça ne change rien. Donc, il y a vraiment cette question et je pense que c'est vraiment dû au fait de, devant l'impuissance, devant tout ce qui se passe, devant comment la société est faite, il y a une solution de rapidité en disant, ben voilà, moi je suis dans un groupe, et dans ce groupe, devant cette impuissance que je reconnais dehors, machin, etc., ou dans une situation, même si c'est pas dans un groupe, je peux call out quelqu'un, je peux commencer à dire à quelqu'un, oui, mais voilà, tu dis ça, mais reconnais tes privilèges. Et ensuite, cette reconnaissance de privilèges qui n'a aucune valeur performative, qui n'est pas un énoncé performatif. Un énoncé performatif, c'est comme, par exemple, quand le juge dit « vous êtes condamné », il dit quelque chose, mais ça traduit quelque chose de réel, de matériel. Bah, énoncer ses privilèges, ça n'a rien de performatif. Ça ne change ni les conditions matérielles d'existence, ni la réalité, ni le fait que le monde continue à tourner de la sorte, mais ça fait performance dans le sens où quelque chose se passe pour dire qu'au moins quelque chose se passe. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas plus privilégiés que d'autres, etc. ? C'est pas du tout ce que je dis. Je dis que pour les milieux mi-temps, pour les personnes qui ont au cœur de faire de la politique pour changer la société, mais pour changer la société, c'est-à-dire changer les rapports de force, changer comment la société s'organise, la base de la politique, le centre de la politique, et même la question du politique ne peut pas être celui des privilèges. Ce n'est pas ça. C'est la question de c'est quoi le plan ? C'est quoi le plan ? C'est comment on s'organise, avec qui on s'organise, et pour faire quoi ? Donc, on peut poser dès le départ avec qui on s'organise, donc on peut décider comme des groupes en non-mixité, en mixité, etc. Ça dépend de tout un chacun et du contexte. Pourquoi on s'organise ? On s'organise pour lutter contre le racisme, contre la misogynie noire, contre la queerphobie, la transphobie. Et c'est quoi le plan ? C'est quoi le but final de la lutte et qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver ? Le but et un objectif de la lutte, ça ne peut pas être que les personnes privilégiées reconnaissent leurs privilèges. Ça peut même pas être une étape. C'est genre, voilà, t'as reconnu tes privilèges, super. Et puis, après quoi ? Après, on peut me répondre, oui, mais il y a des gens qui reconnaissent leurs privilèges, donc après, il faut les reconnaître. Donc, ok, on les a reconnus. Et après, ça peut permettre qu'ils mettent à disposition des choses. Mais est-ce qu'on se rend compte que ça, c'est possible que dans un certain contexte? Ça veut dire que toute l'affaire de reconnaissance de privilèges tourne autour de la rétribution que peuvent avoir certaines personnes oppressées qui se trouvent dans certains milieux à certains moments T. C'est-à-dire que moi, qui travaille, par exemple, je travaille comme je suis consultante pour des organisations à but non lucratif, c'est mon métier, je fais des évaluations de programmes et de projets. Donc il m'arrive d'être dans plein de groupes, soit des gens qui travaillent dans ces organisations ou des groupes parallèles, où la majorité des gens blancs, ou la très grande majorité des gens sont blancs, sont des mecs ou sont des meufs blanches, etc., dans des organisations qui ont beaucoup d'argent, qui ne sont pas comme l'organisation dans laquelle je suis militante, qui n'est pas mon travail. Et ça veut dire que moi, si j'utilise ce truc de privilège en disant bah « moi, je suis dans ces espaces parce qu'il y a plein de facteurs qui a fait que je peux être dans ces espaces », donc le fait de reconnaître les privilèges me permet à moi, après la reconnaissance de privilèges d'autrui, que cette personne compense, mais ça va être compensé que pour moi. Que je sois là, comme je vous dis, en tant que consultante, ou que je sois une artiste, ou je sais pas quoi, de dire, bah, en fait, ça fait comme s'il y avait un immense tableau de points. Ah, ok, t'as reconnu ça, bah, toi, si tu me donnes 3 points, ça rééquilibre. Mais c'est pas possible. Parce que ça ne marche pas et ça n'a aucun impact, un impact politique. Et ce n'est pas du tout la même chose. Par exemple, moi, j'ai des amis qui ont des meilleures situations que moi, ou qui sont dans des groupes qui ont des meilleures situations que moi. Quand on a besoin de quelque chose, ce n'est pas en mode « Ah, reconnaissez votre privilège, est-ce que vous pouvez nous passer ?» Ce n'est pas ça. C'est « Vous êtes une organisation, on sait que vous avez accès à telle ressource. Nous, on n'a pas accès à telle ressource parce que, ben, voilà, c'est la vie. On aurait besoin de ça parce que, en fait, le but, c'est X, Y, Z. Et on sait que vous aussi, votre but, c'est X, Y, Z. Par exemple, sur la justice climatique, l'humanisme, etc. Donc, ça s'appelle une négociation sur des bases qui ne soient pas sur des bases où nous, on est un petit chiot et qui demande à quelqu'un qu'on a plus, ah, s'il vous plaît, reconnais, fais un acte et après donne-nous un nom. C'est quelque chose où nos intérêts objectifs à un moment T, c'est pas tous nos intérêts, mais nos intérêts objectifs à un moment de la durée se croisent et où on fait en sorte qu'on puisse obtenir des ressources que la personne n'a pas. Mais ça ne demande pas toute une mise en place et une scénographie de reconnaissance de privilèges. Et c'est assez fou parce que je pense que c'est vraiment basé sur une morale très, très catholique, cette affaire-là. Si vous vous y pensez bien, c'est un peu, tu vas au, au, au truc là où tu avoues tes péchés, comment ça s'appelle? En plus, j'ai fait du catéchisme, c'est une honte que j'ai oublié. Et que tu dis, voilà, j'ai fait ça. Et après, il y a quelqu'un qui te dit, ah, ok, tu nous feras trois Je salue Marie comme pénitence, ou tu feras trois jours de carême, etc. Donc, c'est vraiment basé sur ça. Et même si on a envie de le faire en disant, oui, mais c'est mieux que quelqu'un reconnaisse, mais je pense que même dans la vie, et ça, c'est mon côté qui écoute beaucoup de trucs de coaching, etc., que la validation de l'extérieur et surtout des personnes qui sont dans des groupes ou qui ont des intérêts antagonistes ne devrait jamais, jamais, jamais être le début de la conversation ni un point important de la conversation. Ça ne devrait jamais être ça. C'est-à-dire cette énergie à faire que des gens reconnaissent leurs privilèges réels ou supposés. Et en plus, il y a plein de privilèges. C'est-à-dire que dans la vidéo de BuzzFeed, là, ils ont fait une liste de 35 comme toutes choses égales par ailleurs. Par exemple, être noir, c'est comme habiter dans une ville où il n'y a pas de train. Donc voilà, donc toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que reconnaître ces privilèges, ça ne peut pas être le commencement, une étape et même un objectif d'une lutte. Ça, c'est vraiment, et pour moi, ça ne devrait même pas être une conversation. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la validation. Si moi, je suis sûre que ce pour lequel je me bats et l'assignation sociale qui est faite, la racialisation du fait d'être noir veut dire ce qu'il veut dire, mon énergie, il n'est pas à ce que des personnes appartenant à un groupe qui a des intérêts antagonistes de race, même si ces personnes sont conscientes de ça, qui reconnaissent leurs privilèges. Parce qu'en fait, les personnes qui vont le faire, de fait, seront celles qui sont le moins agentes dedans. Et ça va pas faire avancer. L'énergie doit être mise dans la constitution du groupe pour être fort lorsqu'il y a des confrontations. Et les confrontations, ça peut être idéologique, ça peut être des manifestations, ça va être du soutien juridique, mais ça ne peut pas être la validation extérieure. C'est-à-dire que toute cette énergie qui est faite en pédagogie, en écriture, en machin, pour aller dire oui, il faut reconnaître vos privilèges, etc., c'est une énergie qui peut être dépensée auprès, je vais prendre pour le cas des mouvements afro, afroféministes, etc., auprès du groupe qu'on veut constituer pour leur dire, mais en fait, ça c'est la situation. Et avoir cette identité sociale, c'est-à-dire être noire, être une femme, ça ne suffit pas pour être révolutionnaire. Il faut travailler. Et quand je dis travailler, pas dans le sens produire, capitaliser, mais il faut se former, il faut partager ensemble, il faut construire des espaces, il faut voir les solutions, il faut voir les solutions à court terme, comment on fait pour être moins précaire, mais les solutions à long terme, comment on fait pour sortir du système capitaliste, les solutions à court terme, comment on fait pour soutenir les oppositions dans nos pays d'origine ou les pays de nos parents contre des gouvernements qui travaillent avec la France, pour la France Afrique par exemple, ou pour des intérêts impérialistes, l'objectif à long terme, le panafricanisme et la décolonisation totale de nos pays d'Afrique subsaharienne et de la Caraïbe. Donc cet aller et vient, toute cette énergie devrait être pour convaincre la nécessité du combat politique et que cette nécessité passe par l'organisation, la formation et se préparer et faire un plan, faire des plans. Ça ne suffit pas. Être noir ne suffit pas. Être dans quelque identité que ce soit, c'est pas révolutionnaire. C'est pas ni révolutionnaire ni radical en soi. Ça ne suffit pas. C'est tout ce que j'avais à dire. Ça fait beaucoup, mais je veux juste résumer pour pas qu'on me fasse des procès en mauvaise intention. Ce que je n'ai pas dit qu'il y a des gens qui étaient privilégiés, qui n'étaient pas privilégiés, d'autres moins, et aussi je voulais aussi dire que notre situation, elle évolue, elle change. C'est-à-dire que c'est pas ad vitam aeternam, oui, aujourd'hui, machin est privilégié parce qu'il est propriétaire, moi je suis locataire, demain peut-être moi je serai propriétaire, bon, peut-être, et etc. Donc c'est comprendre aussi ça, comprendre la circulation. Je n'ai pas dit qu'il y a des gens qui étaient, que ça n'existait pas, les différences de conditions matérielles d'existence, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est que la notion de privilège, son utilisation, sa survisibilité, et le fait comment elle est discutée et utilisée, c'est une conséquence de l'individualisation et une conséquence aussi du néolibéralisme. Donc voilà, et ça décentre les conversations sur ce qui est important. Et ce qui est important, c'est comment on s'organise, avec qui, pour faire quoi. Ça c'est important. Et ça, c'est de l'énergie qu'on devrait de penser. Et même si on me répond, oui, mais quelqu'un, etc., dans les situations présentes, que des gens reconnaissent leurs privilèges, ça ne va jamais les empêcher de dire, de faire ou d'avoir des comportements qui soient violents, oppressifs, parce que c'est la vie, parce que c'est les êtres humains. Et les êtres humains, bah, ça fait de la merde. Ça fait de la merde. Voilà, c'est comme ça. Et les êtres humains qui sont dans des groupes où ils ont le pouvoir à être protégés, de faire de la merde, et c'est normalisé, ça fait doublement de la merde. Donc c'était ça. Je sais que ça fait longtemps. Je vais pas mentir, je vais pas dire oui, j'essaie de faire ça plus régulièrement, parce qu'en fait, j'enregistre le podcast quand j'ai quelque chose à dire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire, c'est que si j'ai rien à dire, je l'enregistre pas. C'est mieux que de faire sur des trucs que j'ai pas très envie, même si c'est pas très régulier. Sur des trucs que j'avais pensé à vous conseiller à lire, déjà il y a le numéro 3 de ACG. ACG, c'est une revue politique sur l'intersectionnalité que je dirige, et le numéro 3 vient de sortir, donc il est en librairie. S'il n'est pas dans votre librairie, vous pouvez demander de le commander, parce qu'il est distribué par Sileps cette année. Et il y a un article que Joao a écrit, qui est sorti aujourd'hui, quand j'enregistre ce podcast, ou hier, qui parle de la notion du grand remplacement et les analyses qui sont faites sur ce grand remplacement, comment elles sont toujours aussi ethnocentrées, eurocentrées, on va dire. Donc c'est un article super intéressant que vous devrez lire. Et il y a l'article dont je vais mettre le lien sur qui s'appelle Defining My Own Oppression sur Historical Materialism. Et j'ai découvert ce site grâce à Joao. Et il y a plein d'articles super, super intéressants dedans. Donc, merci pour votre attention. À très bientôt. Quand ? Je ne sais pas. Vous pouvez aussi écouter le dernier épisode du podcast que j'enregistre pour Aïbo Post, qui est un média haïtien auquel je travaille en Haïti. C'était une entrevue avec Mélissa Davo, et le podcast est en français. Les autres numéros sont en créole, mais le dernier numéro est en français. Donc vous pouvez le retrouver sur le site de aibopost.com. Le podcast s'appelle Medamio Ancé, et vous pouvez le trouver sur SoundCloud, iTunes, etc. Donc, je vous dis à très, très, très bientôt. Et je vous quitte avec Alan Cavé, que beaucoup connaissent. Ça va nous rappeler notre jeunesse avec le titre Pas C'est Pas Poudat, qui est le titre le plus connu, en France en tout cas, mais célébré. Donc, à bientôt!
De laisse arriver, ta carité chite à garder, c'est levé pour célébrer, ou faut la commencer. Toute la vie wonder décampé, y'a cherché que plaisir aille, communauté a décidé, j'aille, joue ton soleil levé. Boy, calé yo, boy, y'a pas les célébrer, boy, faut la commencer, boy, y'a tout pas les danser, boy, calé yo. Célébrer, faites la commencer. Yo, tout pas les danser. Ma chambre taille dans la rue. Tout
pas que play ou bien gagné. Griot a déjà sous-diffé. Banan campé dans l'eau salée. Van man les max aussi soufflé. Yon gouta sous des gouttes lambi. Pablié met beaucoup piclis. Madame maman bien arrosé.
Boy, calé yo. Boy,
yo calé célébré.
Boy,
faites la commencer.
Boy,
yo tout calé danser.
Boy,
calé yo. Célébré, faites la commencer. Yo, tu vas aller danser.
Célébrer.